récréation dans mon école, j'écoute Radio Béton avec une bière bien fraîche et un petit cigare.
Radio Béton, c'est pas bon pour les enfants.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Béton, vous êtes en direct sur 93.6 et vous écoutez l'émission d'entraide et solidarité. Je me présente, je suis Jackie, je suis accompagnée de Nathalie, de François et de Thierry qui sont à la technique tous les deux, pour vous présenter cette nouvelle émission qui est issue d'un partenariat avec Radio Béton. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc Entraide et Solidarité est une association qui fête ses 70 ans cette année, donc 70 ans d'aide aux personnes les plus démunies en Indre-et-Loire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accueillir toute personne en situation précaire, ça veut dire soigner, héberger, former, insérer par le travail et viser l'autonomie des personnes. Ça, c'est les missions principales, à savoir que tout au long de leur parcours, les personnes qui sont aidées par l'association sont accompagnées de travailleurs sociaux qui les aident à construire leur projet de vie. Plein d'autres activités, on ne va pas tout décliner, mais aussi des actions auprès de la maison d'arrêt de Tours ou auprès des femmes qui sont victimes de violences conjugales, par exemple. Voilà, si vous voulez en savoir plus au sujet de l'association, vous pouvez consulter notre site internet entraide-et-solidarité.fr. Notre site internet, il est tout neuf, ça veut dire qu'il n'est pas encore bien référencé par les moteurs de recherche. Donc pour l'obtenir, vous faites dans la barre de votre navigateur http://entraide-et-solidarité.fr. Pour revenir à l'émission, donc ça se passe tous les premiers lundis du mois, de 16h à 17h. Et elle sera animée, cette émission, par des bénévoles et des salariés de l'association. Donc un rendez-vous qui va permettre de donner la parole aux bénéficiaires, aux acteurs des domaines concernés. Notre objectif, c'est de lutter activement contre les exclusions du logement, les exclusions du savoir, les exclusions de l'accès aux soins, par exemple, et de donner la parole, justement, pour faire sortir au grand jour ces problématiques, montrer qu'il y a des solutions qui dépendent, bien sûr, de la volonté des hommes politiques et des pouvoirs publics, mais aussi qui dépendent de nos actions à nous. On a prévu une série d'une dizaine d'émissions qui traiteront justement le SAMU social, qu'est-ce que c'est, l'hébergement d'urgence, comment est-ce que ça fonctionne, l'insertion par l'activité économique pour qui. Voilà. Donc, avant de parler de notre sujet du jour, qui sera la formation, on vous propose une page d'actu.
Alors, une petite page d'actu. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Une petite page d'actu sur le domaine de la solidarité. On pourrait donc commencer par la circulaire Collomb, qui a un peu défrayé la chronique. Circulaire censée autoriser les agents de l'État à entrer dans des centres d'hébergement d'urgence pour y contrôler la situation administrative des personnes hébergées. Donc, on va dire, nous, en tant qu'association et 28 associations nationales ont refusé de siéger, de discuter des modalités d'application de cette circulaire. Voilà, donc ils se sont même constitués en référé. Donc pour l'instant, on attend que ce soit jugé sur le fond. On sent que le gouvernement a été un peu loin et peut-être la pression fera qu'on reviendra un petit peu sur le fond de cette circulaire. Une autre actualité, c'est les mineurs non accompagnés. Alors on va dire les mineurs non accompagnés sont les personnes migrantes qui viennent des pays hors de France, d'Afrique, d'Asie, etc. Et des jeunes. Alors mineurs, il faut non accompagnés. Il y a deux critères, ils sont mineurs et non accompagnés. Ça, c'est l'évaluation, c'est le département qui est chargé de cette évaluation. Les mineurs sont pris en charge par le département, ceux qui sont réputés non mineurs ne le sont pas. Et donc, effectivement, ça pose des problèmes, surtout qu'il y a une grosse augmentation du nombre de mineurs non accompagnés. Ça, en 2017, beaucoup plus qu'en 2016, et 2018, beaucoup plus qu'en 2017. Donc voilà, il y a un problème d'hébergement et d'accueil de ces personnes. Il y a un appel à projet qui est en cours. Donc voilà, il y a aussi pas mal de solidarité pour accueillir ces migrants dans des familles, aussi bien dans des associations comme à l'entraide ou dans d'autres associations. Hein. Voilà. Le troisième point d'actualité, on va dire, il y a un dispositif hivernal qui a vu s'ouvrir de plusieurs gymnases pour mettre tout le monde à l'abri ou presque tout le monde. Alors on dit toujours, il reste toujours des personnes qui sont dehors. Mais ce qu'on sait, c'est que le dispositif va prendre fin au 31 mars, ce dispositif hivernal. Et à partir de là, on sait qu'il y a à peu près 120 personnes qui seront à la rue à partir du 31 mars. Donc voilà un peu les nouvelles du domaine qui sont pas forcément toujours réjouissantes, mais bon, c'est bien aussi de le dire parce que ça peut permettre aussi de trouver des solutions. Voilà.
Ok, alors pour cette première émission, nous avons choisi d'aborder l'accès à la langue française parce que c'est un préalable à toutes les insertions au travail, mais aussi à la vie sociale, et parce que c'est une obligation pour les migrants. Alors on a choisi de distinguer les deux sujets, la lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage du français en tant que langue étrangère. Pour ces sujets, on a avec nous Cécile Douillard.
Bonjour.
Elle est directrice de l'AFIC CRIA 37. Nous avons Christine Dupré.
Bonjour.
Qui est formatrice à l'entraide, formatrice en savoir de base. Aurélie Pinson, qui est responsable de la formation régionale UFCV.
Bonjour.
Armand Karimi, formateur, qui arrive juste dans la salle.
Bonjour.
Qui vous dit bonjour. Nous avons Maria qui est stagiaire à l'entraide aussi. Et puis nous avons François Lafourcade qui est formateur bénévole en français langue étrangère et qui est auprès de nous, qui prendra la parole et qui pourra s'exprimer tout à l'heure. Déjà une première question, c'est quoi l'illettrisme ?
Alors l'illettrisme, selon l'Agence nationale de la lutte contre l'illettrisme, on parle d'illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France, n'ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l'écriture, du calcul, des compétences de base pour être autonomes dans les situations simples de la vie courante.
Alors Cécile, vous êtes directrice du CRIA 37. Est-ce que vous pouvez nous dire mieux qu'est-ce que c'est le CRIA ?
Alors le CRIA, c'est un centre ressources et d'informations sur l'illettrisme et analphabétisme. En fait, on est un espace d'information et d'animation pour tout ce qui touche aux questions d'apprentissage et de maîtrise de la langue française. En région Centre-Val de Loire, il y a un CRIA par département, ce qui est une situation un peu particulière sur le territoire. Pour revenir un peu aux définitions, en fait, la distinction entre les situations d'illettrisme, d'analphabétisme et de français langue étrangère, elle se fait autour de la question suivante. Est-ce que la personne a été scolarisée ? Si la réponse est non, on est dans une situation d'analphabétisme, c'est-à-dire que la personne n'a jamais eu l'occasion d'apprendre un code écrit dans aucune langue.
Mais alors, l'école est obligatoire en France jusqu'à l'âge de 16 ans.
Si la réponse est oui, si la personne a été scolarisée, on a encore deux possibilités. Soit elle a été scolarisée dans une autre langue que le français, et là on parle de français langue étrangère, c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Et si la personne a été scolarisée en français, mais qu'elle a des difficultés pour bien maîtriser la communication écrite et orale en français, on dit qu'elle est en situation d'illettrisme.
D'accord. Alors,
concrètement, peut-être, à quoi ça correspond ?
Oui, et puis alors tout à l'heure, Nathalie a parlé de l'Agence nationale de la lutte contre l'illettrisme. Quelles sont vos relations avec eux ?
Alors, en fait, en France, donc, il y a depuis de longues années une agence nationale qui regroupe un peu toutes les pratiques et toutes les questions, toutes les ressources aussi qui se posent autour de ces problématiques donc, de maîtrise de la langue française, même pour des Français. Et on travaille en lien avec eux. On a signé l'année dernière, en fin d'année, un canevas national pour justement mettre plus en réseau les ressources, les pratiques pédagogiques, faire passer l'information, essayer de pouvoir mieux faire comprendre et connaître et pouvoir permettre à tout le monde de parler de ces difficultés-là. Parce que pour les personnes qui sont concernées, souvent ça, on se dit, mais tiens, puisqu'en France la scolarisation est obligatoire jusqu'à 16 ans, comment ça se fait ? Ben, il est possible de peu apprendre ou de mal apprendre à l'école, ou alors de désapprendre, parce que c'est aussi une question d'entraînement. si on n'a pas été très très à l'aise dans la lecture à l'école, où c'était un peu compliqué, et puis ben, du coup on n'a pas trop eu l'occasion de s'en servir ou de réactualiser ses connaissances, on perd. On dit souvent que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Eh bien si. Si on arrête de faire du vélo, on peut oublier comment ça marche.
Et ça a quelles conséquences dans la vie de tous les jours, ça?
Eh bien, dans la vie de tous les jours, ça rend la vie beaucoup, beaucoup plus compliquée. Parce que y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est pas facile ni agréable d'être toujours en train de demander de l'aide. Il y a aussi... beaucoup de choses qu'on fait un peu à minima parce que du coup dès que on change d'habitude ou qu'il y a un événement nouveau qui arrive, qu'il y a un changement, ça déstabilise et ça fait peur. En plus, on est quand même dans un pays en France où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse administrative. Et donc, dès qu'on est en difficulté, si on n'arrive pas bien à lire un papier qu'on reçoit, on peut manquer un rendez-vous, on peut ne pas bien comprendre ce dont il s'agit. Je ne sais pas, Christine, tu peux compléter.
Tout à fait, oui, avoir des difficultés à gérer son planning, à organiser aussi son temps, et puis à suivre ses enfants, par exemple, à l'école, lire le cahier de liaison où il y a toutes les informations qui sont nécessaires pour le suivi de la scolarité.
Ça représente à peu près quel volume de personnes, ça?
Alors, on dit qu'aujourd'hui, on est à peu près sur 7% de la population en France qui ne maîtrise pas bien la lecture et l'écriture. Et ces personnes, maintenant, peuvent vraiment... ce qui est important à savoir, c'est surtout pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'on peut réapprendre. C'est ça qui compte. Donc ce n'est pas une fatalité, c'est bien pour ça qu'on parle de situation d'illettrice, parce qu'une situation, on s'y retrouve et on peut en sortir.
Oui. Alors, comment est-ce qu'elles font ces personnes pour être dans la... de vivre auprès de nous? Enfin, on ne se rend pas compte, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. C'est un peu transparent, quoi, les personnes qui ont des difficultés avec la langue. Alors, est-ce qu'elles peuvent trouver du travail? Comment est-ce qu'elles s'y prennent?
Il faut savoir qu'on considère qu'il y a plus de la moitié des personnes qui rencontrent ces difficultés qui sont au travail. Donc, réellement, qui vivent avec nous, autour de nous, mais pour qui tout est toujours un petit peu plus compliqué. Parce que ça veut dire que au travail, on a souvent besoin de lire des consignes, de remplir un registre, de faire un compte-rendu. Quand on a du mal à lire et écrire, personne généralement met en place énormément de stratégies, de contournement, pour réussir à faire autrement. Donc attention, c'est pas parce qu'on n'est pas à l'aise avec la lecture et l'écriture qu'on n'est pas intelligent. Bien au contraire. Quand on voit les stratégies que les personnes mettent en place pour pouvoir s'en sortir dans la vie de tous les jours, je vous assure que c'est impressionnant. Mais par contre, ça rend tout beaucoup plus compliqué, et dans le quotidien, et au travail, et pour accompagner les enfants à l'école, des choses comme ça.
Et ça fatigue. Alors, imaginons, par exemple, moi j'entends là tout de suite à la radio, Cécile, et puis je me reconnais un peu parce que j'avoue, j'ai du mal aussi à lire les étiquettes, j'ai du mal pour m'orienter en ville parce que justement je ne lis pas bien les panneaux. J'ai pas envie d'en parler autour de moi. Voilà, parce que ça fait des années que ça se passe comme ça et que je m'en sors. Mais par contre, je suis fatiguée, j'en ai marre. Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je vais? À qui je parle?
Alors, vous pouvez venir au CRIA. Première chose, par exemple. Donc, vous venez à la CRIA et nous, une des premières choses qu'on doit faire et que l'on fait, c'est d'accueillir et de recevoir toute personne qui se pose des questions par rapport à sa maîtrise de la langue, française ou étrangère. Et là, on fait avec elle un bilan de positionnement linguistique, un bilan de compétences de base qui permet de faire leur point sur où on en est dans la langue, ce que je sais, ce que je ne sais pas, ce qui me gêne, ce qui me manque, ce dont j'ai besoin et puis pourquoi j'aurais envie de retravailler, peut-être de refaire juste de la remise à niveau parce qu'on met plein de choses sous ces situations-là. Ça peut être quelqu'un qui... n'a plus d'entraînement sur la lecture, donc qui se retrouve à déchiffrer, ou quelqu'un qui lit, mais sans toujours bien comprendre tout le sens de ce qu'il lit. Ça peut être aussi Il y a des gens qui disent « moi, je fais beaucoup de fautes, par exemple ». Donc, tout ça, ça rentre dans ce qu'on met sous situation d'illettrisme. Mais on a tous eu, à un moment ou à un autre, besoin de remise à niveau, par exemple, sur des sujets particuliers. Donc, voilà, ça concerne aussi toutes ces personnes-là.
Et donc, vous faites des bilans avec ces personnes et après, vous leur proposez
Et après, on leur propose des orientations sur une formation qui leur permet, qui nous semble la plus appropriée, puisque notre boulot, autrement, sur la FICRIA, c'est aussi d'avoir une mission de sensibilisation auprès de tous les acteurs, toutes les personnes qui sont intéressées ou concernées par cette problématique-là, de professionnalisation aussi des acteurs. Il y a beaucoup de formateurs bénévoles qui interviennent dans les formations, donc là on les forme. Et on est aussi sur un axe de mise en réseau et de coordination de toutes les actions qui peuvent se passer autour des problématiques linguistiques, en étant aussi un observatoire et un conseil auprès des pouvoirs publics.
D'accord, donc vous orientez les personnes, vous formez des formateurs.
Voilà.
Donc Christine, vous êtes formateur. Est-ce que...
Trice.
Formatrice, pardon. En savoir de base. Comment ça s'organise une formation pour un adulte? Parce que je me dis, finalement, l'école n'a pas marché. Donc, aujourd'hui, la personne est là. Et comment ça marche? Quels sont vos outils pédagogiques? Comment vous organisez les cours?
Alors déjà, on organise ça en petits groupes. Donc, c'est 10, 12 personnes, c'est le grand maximum. Donc, souvent, ce sont vraiment des petits groupes de travail. On est également aidé par des bénévoles, ce qui nous permet de personnaliser suivant les besoins. Donc au départ, on ne refait pas le même bilan qu'au CRIA, mais on essaie d'identifier clairement aussi le besoin de la personne pour réellement orienter le travail sur quelque chose qui va faire sens pour elle. Ça, c'est important. Et puis, on essaie de ne pas reproduire l'école, mais je dirais que c'est important aussi d'identifier l'origine du problème. Puisque quelquefois, on a juste affaire à un défaut de scolarisation des personnes qui n'ont pas eu accès à l'école et elles ne réagissent pas pareil que des personnes qui n'ont pas appris, qui sont allées à l'école, mais qui n'ont pas appris du fait de troubles d'origine diverse, que ce soit cognitif, psychologique, les troubles peuvent être d'origine diverse. Donc, du coup, on ne va pas forcément prendre les mêmes chemins.
Et quels sont vos outils pédagogiques ?
Alors, on intervient sur un éventail assez large parce qu'on travaille aussi bien sur l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, mais également du calcul, tout ce qui peut être du repérage dans l'espace, tout ce qui peut être du repérage dans le temps. Donc, on essaie de travailler au maximum avec des supports authentiques, donc des supports de la vie du quotidien, de la vie quotidienne. Ça peut être des documents administratifs, ça peut être le cahier de liaison, pourquoi pas, de l'école. Ça peut être toutes sortes de documents auxquels l'apprenant est confronté. On essaie de... Voilà. L'idée, c'est de trouver des apprentissages qui fassent sens pour eux. Et à partir de là, eh bien, on les accompagne dans la lecture, l'écriture.
Et pourquoi pas, la personne vient avec quelque chose, un document qu'elle a à remplir maintenant, c'est-à-dire que le bénéfice, elle en profite immédiatement, tout de suite, pendant la formation, du coup.
Ça peut arriver également, qu'il y ait une demande très concrète, un courrier à comprendre.
Est-ce que vous voyez, au fil de la formation avec vos stagiaires, une évolution dans leur... Est-ce qu'ils vous racontent des changements dans leur vie, ces gens-là?
Oui, très fréquemment. C'est ça, d'ailleurs, qui est le plus intéressant, c'est de voir déjà une évolution dans la posture, à la personne qui se redresse, qui est beaucoup mieux, qui semble beaucoup mieux dans sa peau. Il y a des personnes qui vous disent, mais aujourd'hui, moi, je me sens apaisée. Depuis que je lis mieux, je me sens apaisée.
J'ai repris peut-être un peu de confiance en moi.
Il y a des personnes qui reprennent confiance en eux, qui se disent, maintenant, j'ose aider mes enfants dans le travail scolaire. Où j'ai plus honte de dire que je ne lis pas très bien, parce que je sais que je ne suis pas tout seul dans cette situation-là, donc j'ose le dire, et j'ose demander de l'aide quand il y a quelque chose. Donc déjà, c'est énorme, parce que souvent, c'est des personnes qui vivent de façon assez isolée, parce qu'elles n'osent pas aller à l'extérieur, elles n'osent pas en parler.
En tout cas, nous, on a un numéro de téléphone à vous donner, c'est celui justement du CRIA, puisque vous pouvez prendre contact avec eux si vous souhaitez. Donc c'est le 02 47 47 12 87. Alors le CRIA, il se trouve 3 place Raspail à Tours. On vous redonnera le numéro de téléphone tout à l'heure. Merci. On fait une pause musicale ?
Merci.
Marche le barche gondole dans le roulis, et si on cuit au bas-marie, à gauche te lave, un coup tu m'essuies. Et si on squatte, on se débecte, et les mouettes se délectent de nos anecdotes. Large les barches gondoles dans le roulis, et si on suit des bikinis, les jours de grève, le sable s'ennuie, on se prélasse dans les grandes surfaces, là où se pressent les huiles, et les pics en or. J'ai qu'une idée, éternuer, de retourner le canoë, être le dernier à s'éterniser sur ton corps alangui. Marche les barches gondoles dans le roulis, et si on jouit du clapotis, du bord de mer dans mon jacuzzi, du premier jet, j'ai dû garder, puis j'ai mélangé le léger, le corset, j'ai que j'ai qu'une idée, éternuer, de retourner le canoë, être le dernier à s'éterniser sur ton corps à l'anguille.
Alors, vous êtes en direct sur Radio Béton 93.6. Donc, on reprend notre conversation. Nous étions en train de parler de la lutte contre l'illettrisme avec Cécile Douillard, qui est la directrice du CRIA 37. Tout à l'heure, Cécile, vous disiez qu'il n'est jamais trop tard et qu'on peut toujours réapprendre. Qu'est-ce vous pouvez nous développer ça?
Oui, je vais rebondir un peu sur ce que disait Christine tout à l'heure. C'est vraiment, c'est possible pour tout le monde, à tout âge. Quelle que soit sa situation, le plus grand pas à faire, c'est d'arriver à venir en formation. Mais une fois qu'on y est, avec aussi la façon dont les formateurs travaillent en remédiation sur les compétences de base, c'est vraiment, on est sur des situations de tous les jours, ce n'est pas l'école, hein, c'est une formation pour adultes individualisée, et surtout, ça permet vraiment de reprendre pied et reprendre la main sur sa vie. Ça ouvre au monde, ça permet d'avoir prise sur le monde. Donc, ça change vraiment la vie. Et vraiment, tous les témoignages dont tu as pu parler, tu pourras peut-être en rajouter, Christine, c'est ça que ça donne. Donc, en même temps, je veux vraiment redire combien c'est courageux de le refaire. Parce que souvent, c'est compliqué, ça demande du temps aussi, ça prend du temps, mais c'est possible. Et donc, c'est vraiment ça que je veux faire passer comme message, sachant donc que n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Nous, on travaille beaucoup avec tous nos partenaires qui sont aussi bien les assistantes sociales que les personnes qui accompagnent les personnes qui sont bénéficiaires du RSA, bien sûr les organismes de formation. Et donc, on peut, si vous connaissez quelqu'un, aussi les personnes peuvent venir directement, mais vous pouvez aussi nous adresser des personnes pour un bilan ou pour parler de ces situations-là, tout simplement.
Merci Cécile. Nous allons maintenant aborder notre deuxième sujet qui est le français langue étrangère. Pour ce faire, nous avons Aurélie Pinson, donc responsable formation à l'UFCV. Nancy, qui est apprenante en formation français langue étrangère. Maria, également en formation français langue étrangère. Nous avons François Lafourcade, bénévole. Et puis Armand Karimi Gourdarzi, qui est lui formateur en français langue étrangère. Alors Nancy, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous voulez bien nous raconter votre parcours, Nancy?
Bonjour, je m'appelle Mamie Nancy, je suis gambienne d'origine. J'étais en France depuis, ça fait à peu près 4 ans maintenant. Comme vous dites, j'ai appris les langues linguistiques françaises parce que comme je suis gambienne, là-bas c'est anglais, pas français. J'ai commencé à apprendre les langues françaises ici en France, mais le début c'était très difficile, mais maintenant c'est un peu mieux.
Et alors Nancy, qu'est-ce qui était le plus compliqué justement pour apprendre?
Franchement, pour les langues françaises, je lis bien, je comprends, mais pour faire les bons mots et les bons phrases, c'est ça mon problème. Mais quand même, je voudrais étudier plus pour comprendre plus mieux, parce que comme je parlais bien anglais, ça va m'aider si je comprends très bien français aussi pour trouver bon travail.
Il y a combien de temps que vous apprenez le français, là?
Ça fait à peu près 4 mois et demi.
Bravo, Nancy. C'est bien. Et alors, pour justement vous inscrire à ces formations, qu'est-ce que vous avez trouvé comme aide? Qui est-ce qui vous a aidé? Comment est-ce que c'est, vous suivez vos formations? Avec quel organisme? Qui est-ce qui vous apprend?
Avec UFCV à Tours, mais c'est OFI qui sponsor.
C'est l'OFI qui vous a donné le contact?
Oui, c'est OFI, mais j'ai toujours avec les UFCV. Mais là-bas, franchement, c'est très bon parce que les formatrices, ils sont très gentils avec les formateurs. Tout ça passe très bien là-bas.
Merci Nancy. Aurélie, vous pouvez nous présenter l'UFCV en quelques mots?
Oui, donc l'UFCV, on est une association donc nationale. On est surtout connu au national pour l'animation, les BAFA, les séjours de vacances. Mais c'est vrai qu'en région centre, on fait énormément de formation en insertion et de formation linguistique. Donc on a répondu à un marché pour justement effectuer les formations de l'OFI pour toutes les personnes qui arrivent en France par la voie légale et qui ont besoin de formation en français.
Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne avec l'OFI?
Oui, bien sûr. Donc en fait, quand les personnes arrivent en France, elles sont convoquées à l'OFI, donc à Orléans pour la région centre, où elles ont là-bas un entretien pour évaluer leur niveau de français. Donc Leur niveau est évalué par les auditrices de l'OFI et par le CRIA, parce qu'on travaille aussi avec les CRIA sur toute la région.
D'accord.
Et donc, à l'issue de ce rendez-vous, les personnes se voient attribuer ou non, en fonction de leur niveau de départ, une formation en français. Donc, il y a trois parcours possibles actuellement via l'OFI. Donc, un parcours de 200 heures. Mmh. Un parcours de 100 heures et un parcours de 50 heures. Donc, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, un parcours de 50 heures, on est sur 3 semaines de formation, parce qu'on fait des formations assez intensives au niveau du rythme.
Intensives, c'est-à-dire ?
On est sur du 18 heures par semaine.
D'accord.
Sur un parcours de 100 heures, on est sur 5 semaines et demie de formation. Et sur un parcours de 200 heures, on est sur 11 semaines de formation.
Toujours 18 heures ou
Alors, 18 heures, on peut aller sur plus 21 heures par semaine et sur moins, parce que parfois, on a des personnes qui arrivent en France pour travailler ou qui trouvent du travail en France, c'est un peu aussi l'objectif, et donc ils vont faire des cours seulement le samedi ou quand ils ne travaillent pas, ça peut être sur un jour, deux jours par semaine, et dans ce cas-là, on adapte les rythmes de formation.
D'accord. Donc là, vous recevez entre guillemets un bon de commande de l'OFI qui vous donne la durée par apprenant.
Tout à fait.
Et donc, combien de temps débute la formation après que la personne soit passée à l'OFI? En moyenne,
Alors, c'est un mois.
Un mois.
Un mois maximum. C'est-à-dire que ça peut être beaucoup plus rapide. Nous, on a des entrées toutes les 2 semaines.
D'accord.
On reçoit les personnes et ils rentrent directement en formation.
Vous avez des groupes de niveau, je suppose ?
Alors, c'est vrai que sur des grandes villes comme Tours, on reçoit beaucoup plus de personnes, ce qui nous permet de faire des groupes de niveau. Sur l'Indre-et-Loire, on a aussi, par exemple, une formation à Chinon. Donc, Chinon, c'est une plus petite ville. Et donc, forcément, comme sur Amboise, on peut avoir des formations. C'est plus compliqué de faire des groupes de niveau parce qu'on doit recevoir les personnes et leur fournir la formation rapidement, c'est important pour eux aussi. Et donc, c'est compliqué d'avoir des groupes de niveau sur des petits sites.
Sur des petits sites.
Voilà. Sachant que sur l'Indre-et-Loire, on travaille en partenariat avec ALIR. On n'est pas tout seul sur la région. Voilà. Donc, l'association ALIR fait aussi les formations de l'OFI avec nous.
Nancy, que nous avons entendu précédemment, elle avait au départ une durée de combien d'heures qui lui était attribuée ?
200.
Alors, Nancy, elle avait 200 heures.
D'accord.
De formation, et elle a pu bénéficier en fait d'un deuxième parcours qui est facultatif, celui-ci, qui est pour aller vers un niveau A2. Donc c'est un niveau supérieur à celui qui est demandé au départ à l'OFI, et là elle a bénéficié de 100 heures supplémentaires.
Alors pour nos auditeurs, on va préciser, hein, on a le niveau débutant, ensuite on a le niveau A1 qui commence à s'exprimer, oui. A2 où on a un oral et un écrit correct, B1. Et puis là, je dirais qu'ils parlent peut-être parfois mieux que nous. Et puis enfin, B2. Donc aujourd'hui, au niveau de l'OFI, il y a toutes les personnes qui soient débutants B1, B2, passent le test de positionnement.
Alors, tout le monde passe le test. Pour l'OFI, à ce jour, on demande un niveau A1. Voilà, pour obtenir les papiers, parce qu'aujourd'hui, le niveau de langue est vraiment lié à l'obtention des papiers.
Mmh.
Toutes les personnes qui arrivent en France et qui ont un niveau inférieur au niveau A1 sont orientées vers la formation linguistique. Le but de la formation, c'est d'atteindre ce niveau A1.
D'accord.
Les personnes qui souhaitent rester ensuite en France pour pouvoir avoir une carte de séjour qui est renouvelée pour plusieurs années, on va leur demander un niveau A2, le niveau que Nancy a fait par la suite. Et enfin, une personne qui souhaiterait obtenir la nationalité française, on lui demande un niveau B1.
Ok. Cette année, enfin, on va parler de 2017 parce que combien de personnes vous avez formées dans le cadre des formations OFI ?
Alors, sur l'Indre-et-Loire, on a formé 568 personnes avec l'UFCV et ALIR.
Et ALIR, oui.
Donc, 544 personnes sur Tours et 24 personnes sur Chinon. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure que c'était compliqué sur Chinon de faire des groupes de niveau, 24 personnes à l'année, c'est plus difficile effectivement de faire des groupes de niveau.
comme responsable de formation, qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui compliqué dans l'apprentissage du français ?
Ce qui est compliqué dans l'apprentissage du français, c'est qu'il n'y ait pas de trou dans les formations. Parce que les personnes, quand ils sortent de chez nous, ce qu'ils veulent, c'est, comme Nancy l'a dit tout à l'heure, continuer. Continuer à apprendre, et ils sont vraiment sur une dynamique d'apprentissage. Et c'est parfois compliqué de trouver des suites de formation. Parce que la demande est forte, il y a peu de place, et parfois les personnes ne trouvent pas de formation directement en sortie et perdent un peu ces apprentissages. On parlait tout à l'heure de l'illettrisme où des personnes françaises qui ont suivi un cursus scolaire perdent ces apprentissages. C'est la même chose pour un étranger qui ne va pas pratiquer, qui ne va pas pouvoir continuer sa formation. Et là, c'est vraiment notre gros problème. Et c'est là qu'on essaie de travailler avec le CRIA sur des suites de formation, c'est de ne pas perdre cette dynamique d'apprentissage et de continuer à apprendre.
À apprendre. Ouais. Ces formations, quel coût pour les personnes qui les suivent ?
Zéro. Formations sont gratuites et intégralement financées par l'OFI.
Elles sont obligatoires ?
Elles sont obligatoires. Donc vraiment, c'est très important pour les personnes qui suivent ces formations. Parce que clairement, leur titre de séjour est conditionné à l'assiduité. À ce jour, on ne leur demande pas forcément d'obtenir ce niveau A1 qui est demandé, mais au moins d'avoir été assidu en formation.
Mmh. Une personne qui ne vient pas, quelles sont vos obligations à vous en tant qu'organisme de formation ?
Relancer cette personne, lui faire comprendre que effectivement la formation est importante, que pour pouvoir vivre en France, il lui faudra parler français et que cette formation est vraiment très importante pour elle. Donc après, nous, on relance les personnes par téléphone, par courrier. Et en général, quand on arrive à avoir un contact avec ces personnes, il n'y a pas de souci, ils suivent la formation.
Ok. On enchaîne. Maria ?
Oui, bonjour.
Donc Maria, vous avez également suivi des formations français langue étrangère.
Oui.
Depuis combien de temps êtes-vous en France, Maria ?
Depuis 11 ans.
11 ans ?
Oui.
Donc depuis 11 ans, vous faites des formations français langue étrangère ?
Non.
Alors, depuis quand ?
Cette année, j'ai commencé depuis un mois.
Un mois ?
Oui.
Et l'année dernière ?
L'année dernière, j'ai fait juste les codes de la route.
Les codes de la route. Vous parlez bien français, vous avez appris où ?
Sur les marchés, quand je travaillais sur les marchés.
D'accord.
Je communiquais avec les clients.
Les clients ? Donc ça, c'est vous faisiez les marchés en France ?
Oui.
Vous pouvez nous en parler un petit peu plus ?
Oui, j'en avais fait mes légumes. J'étais à la campagne, j'ai produit mes légumes et je les vendais sur les marchés les week-ends.
Alors ça, c'est... J'ai oublié une question, Maria, vous êtes originaire
De Roumanie.
De Roumanie, donc ça fait 11 ans. Vous êtes arrivée, vous avez cultivé tout de suite ?
Non. Au début, je suis arrivée en France, je n'avais pas le droit de travailler pendant 3 ans.
Pendant 3 ans ?
Oui. Après, j'en avais le droit de travailler et puis j'ai acheté un terrain, j'ai cultivé mes légumes et j'ai vendu sur le marché.
Pendant ces 3 premières années, vous n'avez pas fait du tout de formation ?
Non, parce que bon, par rapport au problème familial, mon ex Marie ne laissait pas faire des formations ou quelque chose.
Comme ça.
Elle a été trop stricte avec moi.
Vos enfants, ils ont été scolarisés dès votre arrivée en France. Comment ça s'est passé ?
Oui, la petite, de la dernière, oui.
Oui, oui. Elle a quel âge, la petite ?
14.
14 ans ?
Oui.
Donc, elle est scolarisée depuis ?
Depuis la maternelle.
Depuis la maternelle.
Oui.
Donc, aujourd'hui, elle maîtrise très bien le français.
Très, très, très bien.
D'accord. Cette année, vous suivez une formation français langue étrangère. Et pour revenir sur les niveaux tout à l'heure, on est au niveau A2. Donc, c'est une certaine maîtrise de l'oral, comme on vous entend. Qu'est-ce qui est encore difficile pour vous en français, Maria, aujourd'hui ?
En écriture.
L'écriture ?
Oui.
Qu'est-ce qui...
À lire, je me débrouille, je comprends, mais en écriture, c'est un peu compliqué.
Oui.
Il faut un cours de travail.
Aujourd'hui, vous recherchez un emploi ?
Oui.
Dans quel domaine, Maria ?
Être cuisinier.
Être cuisinier ?
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore par moment des blocages au niveau de la langue ou pas?
Oui, oui, un petit peu.
Le un petit peu, c'est quoi?
Par rapport, des fois, je confonds le passé. Le passé avec le présent.
Ouais.
Comme je parle du passé, des fois je parle au présent. Et ça, c'est pas bien. j'ai appris ça avec en formation avec Christine. Il nous a bien expliqué. C'est très bien, je suis très contente d'entrer de solidarité. Je me sens très bien parce que j'ai fait pas mal de formations. Et je me sens très bien parce que ça se passe bien. J'apprends pas mal de choses.
Merci. On va reprendre après une pause musicale, Maria. Merci.
Oui.
J'ai un peu écourté.
Want to sit right down and cry. All the plans I had and what it turned to, just shattered
de Radio Breton 93.6 et nous reprenons notre émission sur le français langue étrangère. Maria, donc vous êtes apprenante en français langue étrangère. Vous avez aussi fait une formation code de la route.
Oui.
Vous pouvez nous en parler?
Oui.
Oui.
Par rapport à code de la route, c'est un petit problème par la compréhension, peut-être.
Des questions?
Oui. Il y a des questions que je n'ai jamais racontées. Et puis,
donc,
par rapport à ça, c'est un peu compliqué.
Aujourd'hui, le permis est indispensable pour trouver un emploi ?
Oui, oui, vraiment.
Donc, Maria, aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez ?
Ben, qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui ? Ben, je voulais bien trouver un travail. Mais par rapport, comme je ne maîtrise pas trop bien peut-être l'écriture et à l'oral, peut-être c'est une barrière pour moi.
Vous êtes inscrit à Pôle emploi ?
Oui.
Vous êtes accompagné ?
Oui.
Donc, la saison arrive, donc en tant qu'aide cuisinière, on va vous accompagner pour trouver un emploi.
Ah ben, ça, c'est très bien. Okay. Ça va être très bien.
Merci, Maria.
Moi aussi.
François ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous êtes bénévole, formateur bénévole français langue étrangère.
Voilà, c'est ça, oui.
Depuis combien de temps ?
Bon, ça fait 2 ans maintenant.
2 ans ?
Voilà, que je donne donc bénévolement quelques cours par mois, enfin en tout cas un par semaine. Et j'étais anciennement instituteur. Et donc c'est à ce titre-là que bon, voilà, je trouvais que c'était plus facile pour moi de m'engager sur... des formations que de faire autre chose. Hein. Donc, quand j'étais en activité, instituteur, j'ai eu des enfants non francophones qui venaient, qui fréquentaient la classe, ma classe. Et c'était toujours un plaisir d'avoir la chance d'avoir un instituteur FLE qui intervienne, donc français, langue étrangère, qui intervienne pour les enfants qui étaient vraiment perdus quand ils étaient au milieu de leurs petits camarades et que... Ils ne maîtrisaient rien, enfin, qu'ils ne comprenaient pas la langue.
Aujourd'hui, vous intervenez auprès de débutants ?
Ah oui, oui, c'est débutants et oui.
C'est ce qui vous motive, les débutants. Pourtant, c'est assez difficile de former en français langue étrangère des débutants.
Bah oui, mais enfin, quand on a été instituteur, c'est toujours... Voilà, on a été aussi confronté à ces difficultés-là. Donc oui, mais c'est très gratifiant. Enfin, on mesure les pas qui sont franchis par les apprenants, justement.
Vous avez quelques anecdotes ou moments forts vécus avec des stagiaires français langue étrangère ?
Alors, les moments forts, c'est... lorsque j'ai des apprenants en couple qui viennent, c'est la relation entre le mari et la femme. Voilà. Et très souvent, les hommes ont plus de mal quand même à franchir le pas de la classe et sont souvent absents quand même, il faut le dire. Et on voit bien que le rôle des épouses, enfin, du coup, le rôle qu'elles se donnent, c'est d'attirer, c'est de retenir leur mari pour qu'ils fréquentent de façon plus assidue donc les cours. Et ça, je l'ai constaté plusieurs fois. Je veux dire, ce n'est pas des cas isolés. On voit bien que pour les femmes, il me semble, moi, que c'est plus facile de dire que c'est difficile, qu'il y a un échec, que c'est compliqué, mais qu'il y a plus de ténacité. Quoi, voilà.
Donc les hommes sont plus orgueilleux devant l'apprentissage de la langue ?
Je crois que par
langue.
Rapport à l'échec, oui. Sur l'échec, je pense que pour eux, c'est très difficile à vivre, oui. Et c'est la raison pour laquelle ils sont toujours un peu décalés, hein, en tout cas par rapport aux femmes. Pour le même temps de présence en cours, on voit qu'il y a vraiment une différence importante entre les deux.
Aujourd'hui, vous intervenez une demi-journée par semaine pour un public donné. Vous pensez que c'est suffisant pour acquérir rapidement la maîtrise de la langue ?
Ah, pas du tout. Ah non, c'est pas suffisant. D'ailleurs, je crois qu'ils sont demandeurs de davantage de cours. Hein, quand je leur dis que moi, je ne peux consacrer que 2h30, 3h par semaine, ça, ils disent, mais non, c'est pas possible. Moi, il faudrait que j'aie plus que ça. Hein. Bien sûr, hein, ils ont raison. Hein, parce que d'une semaine sur l'autre, je vois bien, et il suffit qu'il y ait une semaine qui soit ratée, et puis je vois bien que c'est compliqué. Je crois qu'il faut vraiment qu'ils viennent pratiquement tous les jours.
Oui, c'est...
Pratiquement tous les jours.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au départ ? Bon, vous étiez instituteur. Apprendre à apprendre le français, c'est pas la même chose qu'instituteur.
Non, surtout que... Alors, moi, j'ai fait une formation CRIA, hein, donc ça aide un peu, ça rassure en plus. Hein, bon. Non, je crois que... Ben oui, mais les difficultés après, moi j'invente des choses à chaque fois, voilà, nouvelles. Il y a des choses que je faisais au départ que je ne fais plus maintenant, voilà. Donc je crois qu'il faut savoir plein d'outils en main, puis s'adapter avec le public qui est là. Hein. Donc voilà, dire que c'est... Je suis en difficulté quand je vois que parfois, ce que j'ai fait la semaine précédente, eh bien, zéro, quoi, il ne reste plus rien, ou quasiment. Et c'est un peu embêtant, mais bon, voilà, ça fait partie du travail.
Quel outil pédagogique utilisez-vous ?
Le cahier pédagogique de l'entraide et solidarité, qui est bien fait. Et puis des outils personnels. Oui.
Vous pouvez nous en parler sur comment il est construit ?
De façon assez classique. Hein.
Ouais.
Voilà. Il n'y a pas de surprise, il y a des petits textes, il y a se présenter, et puis après on fait un peu de conjugaison. Voilà. Moi j'en fais pas beaucoup, à vrai dire, de conjugaison. Voilà, le passé, le présent et le futur, on verra ça plus tard. Hein. Je me tourne vers Maria qui parlait du passé et du présent et des confusions. Voilà, non, c'est... on a des différents outils. Moi, j'utilise beaucoup, pour les professions, pour les métiers, un petit bouquin. Alors, j'en parle, je fais de la publicité pour ce livre de Nikita, et qui présente les métiers du quartier Velpeau. Voilà, alors, donc il y a des photos de gens, mais c'est des vrais gens. Des vrais gens, la patronne d'un café, une coiffeuse, etc. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir à faire voir ces photos, et eux aussi, je crois, et à essayer de reconnaître les métiers. Puis après, quand on parle d'un métier, coiffeuse, qu'est-ce que c'est, les outils, qu'est-ce qu'il faut, comment ça se passe.
Merci François.
Alors avec nous, on a aussi Armand qui est là.
Bonjour.
Armand est formateur. Entraide et solidarité, et justement, il dispense des formations de français et langue étrangère. Ça fait combien de temps, Armand ?
En gros, ou bien à l'entraide et solidarité ?
En gros,
donc je suis formateur de français depuis 1994, donc ça fait presque 23-24 ans.
Professeur de français, mais pas de français langue étrangère.
De formateur de français langue étrangère, mais et aussi professeur de français, donc les deux. J'ai travaillé, j'ai enseigné le français à l'université, mais le français langue étrangère dans des écoles de langue et dans des centres de formation de langue à l'étranger, en Iran.
D'accord. Donc petit accent que j'entends vient d'Iran.
Ouais.
Voilà. Et là-bas, vous étiez chez vous et vous étiez déjà prof.
Oui.
De français.
Oui.
D'accord.
Donc j'ai commencé à apprendre le français en 1968.
Voilà. D'accord. Donc quand vous êtes arrivé ici, c'est naturellement finalement que vous êtes venu.
Oui, je suis venu chez moi.
Ouais. Alors, moi j'écoute depuis tout à l'heure un petit peu tout le monde parler là de français langue étrangère, et j'ai vu des fois à l'entrée des salles de formation bien pleines avec des personnes qui venaient apparemment d'horizons bien différents et qui étaient tous en formation. Et ma question c'est comment ça se passe pour que tout le monde se comprenne, sachant qu'il y a des personnes qui viennent d'un peu partout, même si il y a des niveaux qui ont été définis auparavant.
Donc tout d'abord, je crois que le rôle de formateur ici en tant que médiateur est très important, et que justement, c'est que les apprenants, ils arrivent très bien à se comprendre. On peut voir, par exemple, les Russes et des arabophones qui se parlent sans problème en langue française, même si c'est des débutants. Donc ils parlent, ils essaient de parler, et c'est ce qui fait qu'ils arrivent à s'intégrer d'abord dans la petite société qui est notre groupe, notre classe, et après dans la société, dans la grande société, la société française. Donc ils arrivent à se voir, parce que c'est humain, et qu'on travaille justement sur les thèmes de communicatifs.
Ils s'entraident entre eux ?
Oui, bien sûr. On est en entraide et solidarité. Nous avons toujours l'entraide et solidarité.
Jusque dans les salles de cours.
Jusque dans les salles de cours.
Et d'autres fois, du coup, quand je me promène dans les couloirs là-bas aussi, je vois des micros dans une salle, et je vois des personnes seules devant leur micro.
Oui, nous utilisons beaucoup les outils informatiques. Donc, il faut travailler beaucoup sur et utiliser les outils multimédia. Donc, c'est nécessaire. Par exemple, lorsqu'on parle, donc la correction de prononciation, ou bien par exemple la grammaire, la conjugaison et tout, ça passe très bien avec les outils multimédia.
Donc il y a une part de formation en salle avec tout le monde et une part de formation individuelle devant le micro et les formateurs. Comment c'est ça? Tout le monde suit le même cursus là? Les formateurs personnalisent
Bien sûr, bien sûr. Ce que nous faisons, c'est que nous disons une partie de notre travail, c'est la conception des outils, disons des outils informatiques et des outils sur les plateformes informatiques. Donc nous concevons des outils donc à partir des besoins de nos apprenants et après nous personnalisons la formation pour chaque apprenant.
Et je me dis aussi que les difficultés à l'apprentissage de la langue française, à l'écriture de la France, enfin de la langue française, doit être différent selon de là où on vient. Il y a des pays qui n'utilisent même pas notre alphabet. Donc je pense que là, par exemple, le niveau de difficulté doit être encore plus important. Ou des personnes qui viennent de l'autre bout du monde, ou qui n'ont vraiment... La culture est différente. Oui.
Je crois que, bon, personnellement, je pense que le problème, c'est d'abord dans les traditions. Donc, nous avons des pays qui ont la tradition orale et des pays avec la tradition écrite. Par exemple, si je regarde les pays arabophones. Les pays arabophones, ils ont la tradition écrite, mais leur alphabet est différent de l'alphabet français. Donc, ceux-là ont moins de problèmes qu'un pays, par exemple, qui a vraiment une tradition orale et que l'écriture ne joue pas un rôle considérable dans la vie quotidienne. Mais il faut voir aussi dans notre public, c'est que notre public, pour une grande part, c'est des apprenants qui ont déjà un niveau d'études et qui ont appris par exemple l'anglais comme seconde langue au lycée, au collège ou bien et surtout parfois dans des universités. Voilà.
Merci Armand.
Je vous en prie.
Il est important de souligner sur les formations FLE qu'on est sur une notion de parcours. Nancy, je pense que vous allez poursuivre ensuite par une formation professionnelle.
Excusez-moi. Oui, c'est ça, parce que comme j'ai fini mon nouveau ado, je voudrais faire quelque chose, je ne voudrais pas rester à la maison pour faire rien. Donc, il y a mes enfants pour occuper, mais de toute façon, je voudrais toujours étudier. Le moment-là, j'ai déjà inscrit pour trois rendez-vous. Le premier, c'est pour formation pour métier hôtesse de caisse. Le deuxième, c'est pour faire les formations professionnelles pour aider moi, pour connaître quelle façon de travail je voudrais faire ou alors je peux faire en France. Le troisième, c'est pour le nouveau BA, pour faire ça encore. Mais je ne sais pas, je vais essayer les trois. Je ne sais pas comment ça va passer, mais à toute façon, je veux faire quelque chose, pas rien du tout.
Merci Nancy.
Merci à vous.
C'est important la notion de parcours et je voudrais aussi associer tous les autres partenaires, toutes les autres associations. Je pense à FCM, à ALIR, Eurinfac, l'AFPP. Résoudre, émergence, qui sont aussi acteurs dans le cadre du français langue étrangère.
Ok, moi je veux bien, c'est redonner le numéro de téléphone du CRIA. Alors c'est le 02 47 47 12 87. Voilà, il reste quelques secondes d'antenne, je crois. Donc pour se donner un prochain rendez-vous qui aura lieu le 7 mai. Voilà, on peut dire à très bientôt. Un très très grand merci aux nombreuses personnes qui ont bien voulu venir, qui ont répondu présent à notre invitation pour cette première. Donc un grand merci à vous tous.
Merci.
À bientôt.
Merci. Merci. Au revoir.
vous êtes très fort, bien.